n'a pas de mandat, ton règne n'a pas de limite, ton règne n'a pas de délai, ton règne n'a pas, alléluia, de temps. Tu règnes éternellement. Le Dieu qui a commencé avant que le mot commencement commence. Le Dieu qui a commencé avant que toute chose commence. Le Dieu qui a ni commencement et ni fin, mais c'est lui qui maîtrise toutes choses. C'est lui qui connaît le commencement de toutes choses et sa fin. Ce matin, Seigneur, nous proclamons que tu règnes à jamais. Ce matin, nous déclarons que tu règnes à jamais. Ce matin, nous proclamons que tu règnes à jamais. C'est ce que Esaïe a vu. Il a vu la gloire de Dieu remplissant le temple. Il a vu Dieu assis sur son trône. Et le séraphin chanter: Saint, 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 la terre entière est remplie de ta gloire. Saint, 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 la terre entière est remplie de ta volonté. Saint, 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 la terre entière est remplie de ta puissance. Et ce soir, c'est notre Dieu. Nous te bénissons pour ta présence en ce lieu. Nous t'élevons au tendre Père. Toi qui règnes éternellement. Toi qui règnes, alléluia, à jamais. Toi qui règnes au tendre Père. De génération en génération. Les siècles passent. Toi tu règnes. Les années passent. Toi tu règnes. Les générations passent. Toi tu règnes. Oh mon Dieu. Ce matin nous sommes errés. Adorer le Dieu. Abraham a adoré. Ce matin nous sommes errés. Adorer un Dieu que David avait adoré. Adorer un Dieu que Moïse avait adoré. Adorer un Dieu. Alléluia. Jacob avait adoré. Adorer un Dieu que Jacques Fernand avait adoré. Tu règnes à jamais. Quelle joie de savoir cette vérité. Reçois l'honneur, la gloire. Toi qui règnes à jamais. 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 Et ton peuple ce matin t'acclame, Seigneur. Toi qui règnes à jamais. Toi qui règnes à jamais. Alléluia. Ton règne est sans pareil. Ton règne est sans pareil. Les hommes passeront. Les présidents passeront. Les rois passeront. Mais toi, tu règnes éternellement. Sois béni, sois loué. Sois glorifié, Seigneur notre roi. Pour ce bon matin, tu nous as donné dans ta présence. Toi qui règnes à jamais. 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 Reçois l'honneur. Reçois la gloire à perpétuité. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur notre roi. Merci Seigneur. Puisque tu es là, ô Père de gloire, présent au milieu de nous. Nous voulons dépendre totalement de toi. Nous voulons dépendre totalement de toi. Nous voulons dépendre totalement de toi. Sois libre, Seigneur, de faire ce que tu veux. Pourvu que ton nom soit glorifié et que ton peuple ce matin soit consolé, réconforté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons tous ainsi prié et nous disons amen. Nous ajoutons des acclamations pour celui qui règne éternellement. Nous ajoutons des acclamations pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Merci Seigneur notre Dieu. Tu es merveilleux Seigneur. Je suis convaincu que c'était cette atmosphère sur la montagne qui a poussé Pierre de demander à Jésus de dresser trois tentes. Vous savez que lorsqu'on est dans cette atmosphère, on n'a pas l'envie d'arrêter. On n'a pas l'envie d'abandonner. Nous avons toujours besoin de continuer d'adorer et de célébrer l'Éternel. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Merci la chorale. Et nous disons merci à notre Dieu pour ces bons matins qu'il nous a donnés. Nous tous, nous sommes là par sa grâce. C'est Dieu qui t'a fait grâce d'être là. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Et nous sommes errés d'être comptés parmi le vivant. Nous voulons aussi dire merci à notre papa, le frère Maurice, notre pasteur. Une bénédiction pour nous de nous avoir sélectionnés comme intervenants ce matin. Vous savez que lorsqu'on est choisi, je l'ai toujours dit, on a des sentiments à la fois. Tu es content, mais en même temps, tu trembles parce que tu ne sais pas. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de la grâce du Seigneur. À chaque fois, on se tient devant vous. Et nous disons aussi merci à vous tous pour votre présence au premier service. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous voulons... Je vous propose trois tests. Je vous propose trois tests. Nous lirons deux, vu le temps. Le premier test, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 29. Deutéronome, chapitre 29, le verset 29. Le deuxième test, c'est Luc, chapitre 1, le verset 5 à 20. Et le troisième test est pour ceux qui notent, c'est vrai que nous n'allons pas les lire. C'est 1 Samuel chapitre 1, les versets 1 à 20. Pour ceux qui notent, vous pouvez ajouter encore cette portion de 1 Samuel chapitre 1, les versets 1 à 20. J'ai lu le premier test de Deutéronome chapitre 29, le verset 29. La Bible dit ceci.
Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La version Semer dit ceci, ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé. Luc chapitre 1, les versets 5 à 20. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fit appeler par le sort, c'est Zacharie, d'après la règle de sa sordace, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, le verset 13, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Dieu ne jette pas nos prières. « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Même Dieu sait, tout le monde ne se réjouira pas. Mais il dit au moins plusieurs. Même pas tout le monde, mais du moins plusieurs. Et le verset 15, il dit, il sera un grand devant le Seigneur. Dans d'autres versions, il dit, il sera important aux yeux de l'Éternel. Ne négligez pas celui qui est à ton côté parce que tu ne sais pas sa valeur devant Dieu. Et la Bible dit au verset 15, car il sera grand devant le Seigneur. Pas devant les hommes, mais devant le Seigneur. Les hommes qui te donnent la valeur, un jour ils mourront. Mais Dieu qui te donne la valeur ne mourra pas. Il dit, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ce sont les instructions. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pas pour être orgueilleux, mais pour ramener le cœur de père vers les enfants. Un homme puissant, rempli de Dieu, ce n'est pas pour être orgueilleux, mais pour un but. Le jour où tu vas comprendre le but de ta puissance, le but de ce que l'Éternel fait dans ta vie, tu cesseras d'être orgueilleux. Il a dit, l'esprit d'Élie sera sur lui et il ramènera le verset 15, il ramènera plusieurs, le verset 16, plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et puissance de lui pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Le verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi renaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mis, oui, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas crié à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Seigneur notre Dieu, comment expliquer un homme qui doute de ta parole, mais par ta volonté, par ta puissance, par ta souveraineté, tu l'as promis des choses dites en ce lieu seront accomplies. Seigneur notre Dieu, aide-nous à comprendre cette réalité. Le nom des gens qui avaient précédé même la personne sur la terre, la mission des gens avait précédé sa présence sur la terre. Aide-nous à comprendre les choses qui nous ont précédées sur la terre pour qu'à chaque pas nous puissions les rencontrer sur la terre, ô tendre Père. Maintenant, nous nous comptons sur toi et nous dépendons totalement de ta présence. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous accueillons cette parole, une parole qui nous fait énormément du bien, une parole qui nous bénit, une parole qui nous fortifie. Le vendredi, je disais à un frère, le test de l'X, c'est un test très connu, mais à chaque fois, je médite autour de ce test et je découvre toujours quelque chose de nouveau. Je lui ai dit, tu es la même personne, mais à chaque fois on te voit, on découvre en toi quelque chose de nouveau. Celui qui t'a vu hier te verra différemment aujourd'hui. Et celui qui t'a vu aujourd'hui te verra différemment demain. Le thème que nous voulons partager ce matin pendant quelques minutes s'intitule « La révélation des fils de Zacharie, deux points, une bénédiction pour une mission. » La révélation des fils de Zacharie, deux points, une bénédiction pour une mission. À titre de rappel, le thème nous sommes en train de vivre cette année, il s'agit de l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Peut-être tu te poses la question, mais comment parler de la révélation des fils de Zacharie au milieu de l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir en lisant ce texte, nous avons compris que Jean était la réponse de la prière de Zacharie. Parce qu'au verset 13, l'ange dit à Zacharie, « Ne crains rien, ta prière a été exaucée. » Mais ce que vous devez savoir aussi ce matin, Jean, au-delà d'être la réponse de la prière de Zacharie, et comme nous savons aussi, les enfants, ce sont des bénédictions pour les parents. Donc Jean, au-delà d'être la bénédiction pour ses parents, nous devons aussi ajouter, Jean était né pour accomplir une mission sur la terre. C'est ainsi que j'aimerais fixer quelqu'un ce matin. Dans l'œuvre du Tout-Puissant, il n'y a pas une bénédiction par hasard. Dans l'œuvre du Tout-Puissant, Dieu ne bénit pas par hasard. Quand Dieu bénit ce qui a un objectif à atteindre, quand Dieu bénit ce qu'il a une mission dans cette bénédiction, quand Dieu bénit ce qu'il a un plan, il veut accomplir dans cette bénédiction. Le Dieu qui a permis Elisabeth soit stérile pour un temps, et le même Dieu lui a rendu féconde. Même avec Anne, dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 5, la Bible dit ceci, Elkana aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Alors nous tous, nous savons qu'une femme mariée désire toujours avoir des enfants. C'est le souhait de toutes les femmes. Une fois se mariée, je devrais avoir un enfant. Mais ceci n'était pas le cas pour Anne, ni pour Elisabeth. Si ça dépendait que d'elle, Anne voulait avoir les enfants au moment où Pénina s'est manqué d'elle. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Parce que si Anne avait eu les enfants à ce temps-là, sans comprendre le sens de la bénédiction, Anne voulait dire à Pénina, moi aussi j'ai un enfant comme toi. Anne voulait dire à Pénina, moi aussi j'ai enfanté comme toi. Anne voulait faire la comparaison avec la bénédiction de Pénina. Oh, Dieu ne nous bénit pas pour se comparer avec les autres. Dieu ne nous bénit pas pour prouver les autres. Dieu ne nous bénit pas pour faire valoir avec les autres. C'est ainsi que tous les fils de Pénina, aucun d'eux, malgré le nombre, le nom a été cité. Mais Samuel, le fils de Anne, son nom a été cité parce qu'il n'était pas seulement une bénédiction pour Anne, mais il était né aussi pour accomplir une mission sur la terre. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne soyez pas des hommes et des femmes qui naissent pour remplir la terre, mais soyez des hommes et des femmes qui naissent pour accomplir une mission sur la terre. Car le plus important n'est pas naître et vivre, mais naître et exister pour accomplir une mission sur la terre. Si tu vis sur la terre sans connaître ta mission sur la terre, tu n'es pas semblable à un mort. Tu n'es pas semblable à un cadavre. Tu es béni, tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a béni. Tu es béni, tu ne sais même pas le sens de cette bénédiction. C'est ainsi que Dieu, entre guillemets, a prolongé la bénédiction de Anne pour permettre à Anne de comprendre le sens de la bénédiction. Le jour qu'elle avait compris le sens de sa bénédiction, elle avait changé aussi sa façon de prier. Et quand elle a eu Samuel, Anne ne répondait pas à Pénina, malgré la mortification. Parce qu'elle savait, cette bénédiction n'est pas seulement pour me réjouir, mais cette bénédiction est venue pour accomplir une mission. Même dans ce test de Luc, un test qui nous fait énormément du bien, ce test, lorsqu'on parle de la révélation, notre attention est beaucoup plus polarisée sur l'exaucement de la prière de Zacharie. Une prière exaucée. Mais dans cette révélation, il y a trois parties. La première partie, la technique peut nous aider au verset 14, au verset 13 et 14. C'est là où on nous montre que Dieu avait répondu à la prière de Zacharie. Je l'ai intitulé cette partie, la bénédiction de Zacharie et exaucement de sa prière. C'était la première partie de la révélation, le verset 13 et 14. C'est là où l'ange dit à Zacharie, ne crains rien, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera un sujet de joie pour toi et pour plusieurs. La deuxième partie de la révélation, c'est le verset 16 et 17. Et dans cette partie, Dieu est en train de donner les détails de la mission de l'enfant qui devrait naître. Il dit ceci, il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Le verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ici, c'est la deuxième partie de la révélation. Il est en train de donner les détails de la mission de la révélation. Et la troisième partie, c'est au verset 15. La technique peut retourner un peu au verset 15. C'est au verset 15, ici, l'ange est en train de donner les instructions. Parce qu'un homme béni, une femme bénie ne se comporte pas comme tout le monde. Des fois, tu te comportes comme tout le monde parce que tu n'as pas la révélation de ce que Dieu a mis en toi. Le jour où tu comprendras ce que Dieu a mis en toi, tu cesseras de faire des choses comme tout le monde. Il dit ici, il ne boira pas vin liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il s'agit des instructions concernant la bénédiction, parce que la bénédiction de Dieu doit être protégée. Mais nous, par contre, plusieurs fois, nous réjouissons parce que Dieu nous a bénis. Parce que Dieu nous a bénis. Des fois, nous ajoutons, Dieu nous a donné ce que nous n'avons pas demandé. Tu t'es déjà arrivé à poser la question, pourquoi Dieu t'a donné cela? Parce qu'avoir une bénédiction, c'est une chose. La gestion de cette bénédiction en est une autre. Avoir une bénédiction, c'est une chose. Et la gestion de cette bénédiction en est une autre. C'est ainsi, la révélation t'aidera à voir la connaissance ou à voir encore de connaître la volonté de Dieu pour bien gérer la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prévu trois points, mais je me réserve de vous donner tous les points parce que je ne sais pas si j'arriverai vu le temps. Mais notez quand même. Le premier point, une prière exaucée. Non, excusez-moi. Le premier point, la révélation et son impact. Comprenez mon émotion. La révélation et son impact. Le deuxième point, les caractéristiques de couple de Zacharie. Les caractéristiques de couple de Zacharie. Et le troisième point, la stérilité d'Élisabeth et le projet de Dieu. Si il arrivait que je ne suis pas arrivé au troisième point. Retenez seulement une pensée en ce qui concerne le troisième point parce que je ne pense pas que j'arriverai. La pensée qui dit la stérilité d'Élisabeth et le projet de Dieu, la pensée qui résume ce troisième point, vous pouvez déjà le noter, que toute souffrance qui fait partie du projet de Dieu finit toujours à un témoignage. Tout problème, toute souffrance qui fait partie du projet de Dieu finit toujours à un témoignage. Si on aura le temps, on va arriver à ce point. Sinon, vous avez déjà l'idée générale de ce troisième point, la stérilité d'Élisabeth et le projet de Dieu. Mais avant d'aborder aussi les trois points, analysons un peu l'histoire de Luc chapitre 1, le verset 5 à 17, avant d'aborder les trois points. Si vous lisez toute la Bible, nous avons 66 livres. On parle seulement des noms d'Élisabeth dans le livre de Luc. Et si vous lisez aussi tous les livres de Luc, c'est seulement au premier chapitre on cite le nom d'Élisabeth. Élisabeth qui a donné naissance à Jean. Jean, c'est lui qui a préparé l'arrivée du Messie. Jean, lui-même, Jésus est en train de dire, parmi les fils des hommes, il n'y a aucun homme soit plus grand que Jean. Jean avait la révélation, la précision du Messie que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Mais sa mère, il n'y a qu'un seul livre qui parle, qui cite son nom. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul livre qui parle d'Élisabeth et un seul chapitre. Ça signifie quoi? Ce n'est pas parce que ton nom n'est pas connu de tous que rien de bon ne sortira en toi. Ce n'est pas parce que ton nom n'est pas cité beaucoup de fois que rien de bon ne sortira de toi. Si 66 livres, seulement le livre de Luc et le premier chapitre qui parle le nom d'Élisabeth 9 fois seulement. Mais en elle est sorti quelqu'un qui préparait l'arrivée du Messie. En elle est sorti quelqu'un qui était considéré le plus grand de tous les fils qui sont sortis des femmes. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ton nom n'est pas beaucoup cité, en toi, il y a des choses qui étonneront le monde. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'actions dans ta vie pour que ton nom soit connu. Avec une seule chose seulement, ton nom peut être connu dans le monde. Une seule chose seulement, un seul événement dans ta vie peut faire que ton nom soit connu dans le monde. Analyser encore plus grave ce test, parce que le docteur Luc nous signale que ce couple avait un problème. Le problème de maternité, c'est la femme qui était stérile. Alors, ce problème, en analysant le test, j'ai compris qu'il y avait deux facteurs qui rendaient ce problème grave. Parce qu'il y a des problèmes moins graves et des problèmes graves, malgré le tout, sont des problèmes. Il y avait deux facteurs qui rendaient ce problème grave. Le premier facteur, c'est le temps passé dans le mariage. Vous savez, un couple nouvellement marié sans enfant, ce n'est pas un sujet d'inquiétude. Une année de mariage sans enfant, ce n'est pas non plus aussi un sujet d'inquiétude. Même 5 ans, les conseillers conjugaux vous diront, on ne peut pas parler de la stérilité avant 5 ans de mariage. Mais lorsque 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est là où les inquiétudes commencent à s'installer dans le cœur. Autrement dit, une situation qui n'est pas un problème aujourd'hui, plus les années passent sans changement, ça peut devenir un problème demain. C'est ce que nous vivons aussi dans notre pays. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, ce sont des situations que nous avons négligées hier. Ou encore, ce sont des petits problèmes que nous avons négligés hier. Mais plus les années passent sans changement, demain, ça peut devenir des grands problèmes. C'est ainsi, quand vous avez la possibilité de résoudre un petit problème, n'hésitez pas. Parce que vous ne savez pas demain qu'est-ce que ça peut engendrer. Vous ne savez pas ce que ça peut engendrer demain. L'inquiétude était par rapport au nombre d'années passées dans les mariages. Parce qu'à l'époque, une femme pieuse, juive, craignant le Seigneur et son serviteur et serviteur, son mari et serviteur, sans enfant, était un sujet de moquerie, un sujet d'humiliation. Une année, on peut comprendre, mais plus de 30 ans de mariage sans enfant, c'est là où était devenu grave son problème. Deuxième facteur qui rendait grave son problème, c'est l'âge de la femme et du mari. La Bible ne nous donne pas, ne nous détermine pas l'âge d'Élisabeth. Mais les faits historiques nous donnent des probabilités. La première probabilité, on me dit, l'âge d'Élisabeth variait de 50 à 60 ans. Deuxième fait historique me dit, l'âge d'Élisabeth allait dans de 88 ans. Bon, même si le fait historique ne nous donne pas de précisions concernant l'âge d'Élisabeth, il y a aussi des phrases dans la Bible qui nous donnent au moins une lumière. La première phrase, c'est 1 Luc chapitre 1, le verset 7. Luc chapitre 1, le verset 7. La technique, s'il vous plaît. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Le verset 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Même si les faits historiques ne nous donnent pas la précision, même si la Bible ne nous détermine pas l'âge, mais ces deux phrases démontrent que le couple avait dépassé l'âge normal de concevoir. Le couple avait dépassé l'âge normal de concevoir. Mais c'est avantageux pour toi. Parce que le monde ne parlera pas de toi quand tout est normal dans ta vie. Le monde ne parlera pas de toi quand tout est normal dans ta vie. C'est ainsi que j'aimerais exciter la foi de quelqu'un. Et une foi constante. Au temps normal, même au temps anormal. Parce que Dieu n'est pas obligé de faire tout dans ta vie au temps normal. Si Dieu fait tout dans ta vie au temps normal, on ne parlera pas de toi. Le monde s'agite quand il constate à toi quelque chose d'anormal. Je suis en train de prier. Quelqu'un qui est en train de traverser un moment anormal, prépare-toi à un miracle. Parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée au temps normal. Il n'y a pas offre d'emploi, mais on a engagé quelqu'un. Il n'y a pas offre d'emploi, mais on a engagé quelqu'un. On ne cherche pas les gens, mais quelqu'un est engagé. La puissance de Dieu n'est pas limitée au temps normal. Et quand tout est normal dans ta vie, mon frère, ça ne pèse pas. 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 Dieu n'est pas obligé de faire tout au temps normal dans ta vie. Ce qui m'a fait encore du bien en analysant ce test, l'âge dans son apparition n'a pas demandé l'âge de Zacharie. L'ange dans son apparition n'a pas demandé l'âge de Zacharie. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement la révélation, mais le contenu de la révélation. La révélation, c'est une chose. Le contenu aussi en est une autre. Au gros, j'appelle les révélations au couvre. Mais ici, c'était une bonne nouvelle. Autrement dit, tant qu'on est en Christ, c'est possible, en n'importe quel âge, de recevoir de bonnes nouvelles. J'aimerais parler comme le frère Maurice qui dit toujours, dans la vie, il n'y a pas seulement de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles aussi existent. L'ange n'a pas demandé l'âge de Zacharie pour lui donner la bonne nouvelle. Il lui a dit, ne crains rien. Dieu a exaucé ta prière. La bonne nouvelle, en n'importe quel âge. La bonne nouvelle n'est pas seulement réservée aux jeunes et aux enfants, même aux vieux. Même lorsque le corps est fatigué, vous attendez que la mort, c'est possible d'attendre une bonne nouvelle. Allons un peu à la croix de Golgotha où il y avait Jésus et des voleurs de gauche à droite. Bon, je n'aime pas utiliser le mot voleur. Parce que si réellement c'était des voleurs, ils n'allaient pas être là. Les brigands, c'est mieux. Les brigands, c'est mieux. Parce que dans le droit romain, le vol n'était pas un crime capital. Vol simple ou vol avec violence n'était pas un crime capital. Donc ces gens-là n'étaient pas des larrons, mais c'était ni des larrons ou des latrons à latin, mais c'était des sicaires, des brigands, un groupe de juifs qui se révoltaient contre les Romains. Les brigands, des excitateurs, des agitateurs de la société. Des brigands. Sur la croix, au milieu, il y avait Jésus. Il y restait seulement quelques minutes ou quelques secondes pour mourir. Mais l'un d'eux a reçu une bonne nouvelle. Jésus a dit à l'un des brigands, aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, toi avec moi, nous serons au paradis. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es avec Christ, c'est possible à tout moment de recevoir une bonne nouvelle. Pendant que tout le monde regardait, les deux volets disaient, ils ne savaient pas que quelqu'un est en train de recevoir une bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tes ennemis sont en retard. Pendant qu'ils ont des informations, à Kala, or toi tu es en train d'attendre déjà de bonnes nouvelles. Pendant que tout le monde regardait les brigands en disant, ah, ils sont morts à cause de leur péché. Or il y avait quelqu'un qui était là, recevait de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont possibles pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Les bonnes nouvelles sont possibles. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur. C'est quoi une révélation? Et quel est son impact? La révélation, selon le dictionnaire, nous sommes dans le premier point. C'est une action de relever, de révéler. Révéler signifie faire avoir ou savoir, faire savoir une chose qui était inconnue et secrète. Une information divine, cachée, mais dévoilée à un homme pour connaître la volonté de Dieu sur un événement. Jérémie 33, 3, Dieu dit, invoque-moi et je t'annoncerai des choses cachées. La révélation, des choses cachées qui ne sont pas connues. Maintenant, quel est l'impact ou son impact? Le premier impact de la révélation. Un homme qui a la révélation, c'est un homme qui est en avance par rapport aux autres. Un homme qui a la révélation, c'est un homme qui est en avance par rapport aux autres. Vous savez que la naissance des gens n'était pas comme la naissance de Jésus où l'ange devrait couvrir Marie. Mais la naissance des gens, il fallait que Zacharie puisse poser un acte. Pendant que toute la famille savait que Élisabeth est stérile, Zacharie, lui, au temple, elle savait que, à partir de maintenant, ma femme n'est plus stérile. C'est pourquoi nous sommes dans le monde. En ta forme, les abientés. Il ne danse pas en fonction de cette forme-là. Mais il danse en fonction de ce que Dieu lui a dit. Il danse en fonction de ce que Dieu lui a dit. Vous devez comprendre, vous devez comprendre. Pourquoi vous n'allez pas comprendre? Deuxième impact de la révélation. Un homme qui a la révélation a été toujours incompris par les gens de sa génération. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas à tout le monde de comprendre tout. Parce que quand Dieu te donne une révélation, il te donne aussi la capacité de saisir le sens de cette révélation. Or, ce sens-là, les autres n'en ont pas. C'est pourquoi un homme qui a la révélation a été toujours incompris par les gens de sa génération. Joseph a été incompris par les gens de sa génération. Oh, je préfère être incompris que de passer tout mon temps à expliquer aux gens qui ne vont pas comprendre. Un homme qui a la révélation a été toujours incompris par les gens de sa génération. Un homme qui a la révélation. L'enfant s'appellera Jean. On demande à la femme la même chose. L'homme aussi, la même chose. Mais le nom des gens n'existe pas dans notre famille. Non, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi lorsque vous avez la révélation, c'est partage avec les autres. S'ils n'arrivent pas à comprendre, n'insistez pas. Prie seulement Dieu qu'il leur donne aussi l'intelligence, la sagesse, la sensibilité de comprendre comme ta compréhension. S'ils ne comprennent pas, reste seulement calme. Le jour où la chose va arriver, le jour où la chose va se concrétiser, tout le monde va comprendre sans explication. Tout le monde va comprendre sans explication. C'est pourquoi quand tu expliques quelqu'un, il ne comprend pas, laisse-le. Les. Patiente seulement. Le jour où la chose va se réaliser, tout le monde va comprendre sans explication. La troisième impact de la révélation. La révélation rend l'homme présent là où les autres le voient absent. La révélation est capable de rendre un homme présent là où les autres le voient absent. Rappelons-nous de l'histoire d'un prophète dans la Bible, Élie ou Élisée. Élisée. Pendant que le roi de Syrie ou Assyrie, Syrie ou Assyrie comme ça, Syrie, voilà, parce qu'il y a des pays, Syrie et Assyrie. Le roi de Syrie, qui complotait, qui faisait des calculs, des tactiques de la guerre pour attaquer Israël. Or, dans les pays, il y avait un prophète qui avait la connaissance de toutes les formules de roi de Syrie. Et un jour, un serviteur de Syrie, le roi de Syrie pose la question, plutôt, le roi de Syrie pose la question, qui est en train de révéler notre tactique de guerre à Israël? Quelqu'un a dit, non roi, personne ici, mais en Israël, il y a quelqu'un. Mais comment moi, dans ma chambre, je n'ai que moi et vous? Lui, il n'est pas là. La révélation rend un homme présent là où les autres le voient absent. Vous savez que si tu as habitude de placer des mouchards dans la foule, tu es plus petit. Plus petit. À l'université, j'ai connu certains recteurs qui se comportaient comme ça. Même dans mon parcours professionnel, j'ai connu quelques personnes qui faisaient comme ça. Je ne vais pas allonger la liste. Hein. Je m'arrête seulement par là. Que des mouchards, c'est-à-dire à tient point mort, moutoumour, ben la foule, qui va venir pour lui rapporter les informations. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si Dieu te cache des choses, il te cache des choses pour lui. Mais si Dieu veut te révéler, il va te révéler. Même s'il ne te donne pas tous les détails. Vous savez qu'Abraham, au début, n'avait pas tous les détails. Mais il avait au moins une parole qui disait que je te montrerai le chemin. Abraham ne savait pas le pays, mais il avait au moins une parole de révélation, je te montrerai le chemin. C'était déjà un indice de la révélation et des détails. Vous savez que n'ayez pas de mouchard. À l'église, vous avez placé des mouchards, des frères, vous comprenez. C'est lui qui amène les informations. Non, mon frère, ça c'est un niveau très bas. La révélation nous rend présent là où les hommes nous voient absents. Si Dieu veut te révéler une chose, il va te révéler. Si Dieu veut que le complot de tes ennemis soit informé par toi, il peut le faire. Il peut le faire. La révélation nous rend présent là où les hommes nous voient absents. La révélation permet à l'homme de comprendre le pourquoi de son existence. La révélation. Comprends, aide l'homme à comprendre, même quand Dieu le bénit. Oh, je bénis le Seigneur, il m'a donné au-delà de ce que je demandais. À la suite, il connaît pourquoi Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il a demandé. La révélation, Siméon savait pourquoi il vivait. Siméon savait pourquoi il vivait. Siméon savait, et même Jésus lui-même savait pourquoi il est venu sur la terre. Vous savez que les hommes qui t'aident sans connaître le pourquoi vont regretter un jour. Parce qu'ils t'ont aidé par erreur. Mais Jésus sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie, c'est pourquoi il ne regrettera jamais de ce qu'il fait dans ta vie. Donc la révélation t'aidera de comprendre le pourquoi de ton existence. Pourquoi le Seigneur m'a mis ici? Pourquoi le Seigneur a fait ceci? Même au milieu de la souffrance, la révélation t'aidera à comprendre le pourquoi. Le pourquoi. Et enfin, cinquième impact, la révélation nous amène à découvrir la particularité de la bénédiction. Anne a eu beaucoup d'enfants hormis de Samuel. Mais seulement avec Samuel, il y a eu une parole de révélation. Parce qu'il y avait une particularité. Marie a eu beaucoup d'enfants après Jésus. Mais seulement avec Jésus, il y a eu une révélation. Parce qu'il y avait une particularité. C'est ainsi, Élisabeth, à son tour aussi, a eu cette parole de révélation. Pourquoi? Parce que cet enfant n'était pas seulement une bénédiction pour le parent. Cet enfant n'était pas seulement une réponse à la prière de Zacharie. Mais cet enfant avait aussi une mission sur la terre. La particularité de cet enfant, c'est quoi? C'est au verset 14 à 17, le verset 16 à 17, là où on a donné les détails de la mission de cet enfant. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur. Il sera nazaréen. Donc, on ne va pas couper ses cheveux, il ne prendra pas de vin. Il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dès le ventre de sa mère. Et sa prédication ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur. La particularité de cette bénédiction. Et la révélation nous aide de comprendre la particularité. Tu as eu beaucoup d'enfants, mais seulement avec cet enfant où il y a eu beaucoup de choses. C'est qu'il y a une particularité dans la vie de cet enfant. Vous savez que Dieu n'est pas obligé de tout te dire, mais Dieu ne cache pas non plus tout à ses serviteurs. Il se révèle toujours. Il te dira toujours. Maintenant, ce couple qui a bénéficié de ces choses, quelles sont les caractéristiques de ce couple? Le couple de Zacharie. Quels sont les éléments qui caractérisaient ce couple? La Bible nous montre au verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais déjà au verset 5, on nous signale que Zacharie était de la classe d'Abia et sa femme était d'entre les fils d'Aaron. Dans d'autres versions, on dit Zacharie était de la famille des prêtres et Élisabeth était de la famille Aaron. Donc cette description nous montre que la première caractéristique, ce couple était composé des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Pendant combien de temps ce couple est resté sans enfant? Au-delà d'être un sujet d'humiliation, un sujet de manquerie, manquer un enfant était aussi le motif pour le divorce. Si par le divorce, l'homme pouvait aussi épouser la deuxième femme. Mais Zacharie n'a pas fait ça. Il est resté fidèle à sa femme. Contrairement à Elkana qui a pris la deuxième femme, malgré la Bible nous signale que chaque année, il montait au temple, la famille montait au temple. Mais Elkana avait quand même la deuxième femme. Ce qui n'était pas le cas pour Zacharie. Zacharie, pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais le couple est resté fidèle, constant. Dans le Seigneur. Soyez les vrais enfants de Dieu. Ça vous aidera de supporter certaines choses. Il y a certaines choses dans la vie, seuls les enfants de Dieu peuvent les supporter. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, ça sera difficile pour toi. Il y a même dans les mariages, il y a certaines choses. C'est parce qu'il est enfant de Dieu. Moi, c'est Atienassé. Parce qu'elle est enfant de Dieu. Il y a des choses, les païens ne supporteront pas. Soyez enfant de Dieu. Si ce matin vous n'avez pas encore donné votre vie en Jésus-Christ, c'est l'occasion pour vous. C'était un couple composé d'enfants de Dieu. L'homme était serviteur et la femme était servante. L'homme était serviteur. Un couple d'enfants de Dieu. Vous savez qu'une femme qui a la grâce de Dieu, qui rencontre un homme qui a la bénédiction de Dieu, les enfants seront aussi la bénédiction. Une femme qui a la grâce, qui rencontre un homme qui a la bénédiction de Dieu, cette union donne toujours naissance aux bénédictions. Soyez des enfants de Dieu. Soyez des enfants de Dieu. Soyez des enfants de Dieu. Deuxième caractéristique, ce couple avait la grâce. Avait la grâce. L'ange dit à Zacharie, ne crains rien, ta prière a été exaucée. C'était au temple, dans la présence de Dieu. La gloire était là. Zacharie avait tous les éléments pour croire à cette révélation, pour accepter sans douter. Mais Zacharie va poser la question. Comment cela arrivera-t-il? Comment? Il donne les éléments. Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange lui dit, comme tu as douté, j'aime Dieu. Il n'a pas dit que tu n'auras pas un enfant. Vous savez qu'un crédit sera puni, mais Dieu fera ce qu'il a pensé de faire dans ta vie. Amen. Mais un crédit sera puni. Il dit, toi tu seras mioué. Mais moi je ferai ce que j'ai décidé de faire dans ta vie. Vous savez que quand Dieu te donne une chose, sans tenir compte de ta foi, il ne veut pas t'encourager dans l'incrédulité. Mais il veut t'aider pour qu'à la prochaine occasion, tu puisses avoir la foi. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la femme de Tsunamite, comme un exemple. Cette femme qui faisait du bien au prophète. Le prophète déclare une parole en disant que l'année prochaine, de la même époque, tu auras un enfant. Cette femme a refusé. Non, tika ne dis pas ça pour me flatter. L'homme lui a dit, non, ce n'est pas la flatterie. Année prochaine, tu auras un enfant. Cette femme, en elle, on a trouvé des doutes. On a trouvé les refus de croire à la parole libérée par l'homme de Dieu. Mais l'année prochaine, à la même époque, cette femme a eu un enfant. Quelques années plus tard, l'enfant va mourir. La femme refuse d'enterrer l'enfant. Pour avoir cet enfant, elle n'avait pas la foi. Mais l'enfant mort, il refuse d'enterrer. Il dit non, mort mais je n'enterre pas. Il dit mort mais je n'enterre pas. Quand Dieu te donne une chose sans la foi, ce n'est pas pour que tu demandes. Non, parce qu'il y a quelque chose de grand. Il faut avoir la foi. Cette femme a dit non, mort mais jamais enterré. Il a gardé son enfant. Quelle foi! Il n'a rien dit même à son mari. Comment tu vas? Tout va bien. Waouh! Toi qui avais nié hier, mais aujourd'hui tu dis tout va bien. Quand Dieu te donne une chose sans la foi, ce n'est pas pour t'encourager dans l'incrédulité. Ce qui viendra après te demandera une grande foi. Et cette femme a voyagé jusqu'à ce qu'elle a rencontré l'homme de Dieu. Et l'enfant a été ressuscité. Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! Quelle foi! C'est pourquoi j'ai jamais été enfant de Dieu. Quand ça ne tient pas pour la première fois, Dieu nous donne toujours la possibilité pour la deuxième fois. J'aime être enfant de Dieu. Nous donne la possibilité. Nous donne la possibilité. Oh, je prie le Seigneur te donner aussi la possibilité. Je ne sais pas la première fois c'était dans quel contexte, mais je prie qu'il te donne la possibilité. Qu'il te donne la possibilité. Je ne sais pas si j'ai déjà dépassé ou soit. Je ne sais pas. Que le Seigneur nous vienne à d'aide. Troisième caractéristique, ce couple était un couple assidu au temple. Parce que la révélation a rencontré Zacharie au temple. Ce couple était assidu au temple. L'absence de l'enfant ne faisait pas que Zacharie soit absent au temple. Manquer un enfant ne faisait pas que Zacharie puisse manquer le service. Zacharie ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour où il sera visité. Il y partait parce que c'était un fardeau pour lui. C'était une passion pour lui. C'était une vie pour lui. C'était entre guillemets un rythme pour lui. C'était une façon pour lui de servir le Seigneur. Ce que tu manques aujourd'hui ne t'empêche pas d'être présent dans la présence de Dieu. Manquer un enfant ne faisait pas à Zacharie d'être absent dans la présence de Dieu. Ce que je manque, c'est vrai, mais je serai toujours présent dans la présence du Seigneur. C'est vrai que je manque, c'est vrai, mais je serai toujours présent dans la présence du Seigneur. Vous savez, quand Dieu bouleverse le temps, la suite, il y a un miracle. La suite, il y a toujours un miracle. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Un jour, j'étais invité dans une fête. On m'avait dit que la fête doit commencer à 19h. Moi, j'étais là à 18h45. Le protocole m'a dit, waouh, tu respectes l'heure, tu es arrivé à temps. C'est depuis ce jour-là que j'avais compris. Terminer avant l'heure, c'est aussi respecter l'heure. Est-ce qu'on peut tenir debout pour prier? Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes? Je ne sais pas dans quel niveau ce message vous a touché. Je ne sais pas dans quel niveau cette prédication vous a touché. Nous allons prier. Dieu ne fera pas tout dans ta vie au temps normal. Pendant quelques minutes, j'aimerais demander à quelqu'un d'activer encore. Activer encore ta foi. Activer encore ta foi. Le monde ne parlera pas de toi quand tout est normal dans ta vie. Tu es en train de traverser un temps difficile, un temps compliqué. Tu as toutes les raisons pour dire que non, ça sera difficile, ça sera impossible. Mais crois mon frère, crois ma sœur. Crois mon frère, crois ma sœur. Parlez à ton Dieu pendant quelques minutes. Parlez à ton Dieu pendant quelques minutes. Qui sait, peut-être aujourd'hui c'est ton tour. C'était au temple que Zacharie était visité. C'était au temple que l'ange avait dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Qui sait, peut-être aujourd'hui. Mon frère, ne regarde pas le temps que tu as passé avec ces problèmes. Mais regarde le Dieu qui gère le temps et les circonstances. Ne regarde pas le temps dans lequel tu es passé avec ces problèmes. Mais regarde le Dieu qui gère le temps et les circonstances. Regarde le Dieu qui gère le temps et les circonstances. Regarde le Dieu qui gère le temps et les circonstances. C'est vrai que le temps passe. Et puisque le temps passe, ça rend ces problèmes graves. Mais ce matin, nous croyons, Dieu peut faire quelque chose. Ce matin, nous croyons, Dieu peut faire quelque chose. Ce matin, nous croyons, Dieu peut faire quelque chose.